In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages. C'est la rentrée, c'est le démarrage de la 6e émission de votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Cette année encore, je vais essayer d'être le miroir le plus fidèle possible de cet univers. Et pour commencer cette 6e saison, mais aussi son 133e numéro du beau monde autour des micros, je vous propose d'entendre trois voix de la littérature très différentes réunies en ce moment à la maison Julien Gracq. Autrement dit, du mauvais genre, de la poésie et la forêt. Trois autrices et auteurs autour des micros. Bonjour Michel Pedignelli.
Bonjour.
Bonjour Anouk Leksik.
Bonjour.
Et bonjour Axel Sourisseau.
Bonjour.
Mais en réalité, ils sont quatre, puisqu'ils sont accompagnés de Jérémy Fabre, le directeur de la maison Julien Gracq, qui a accompagné tout ce beau monde. Bonjour Jérémy, comment ça va ?
Bonjour Luc, très bien, merci.
C'est la rentrée aussi pour la maison Julien Gracq. Trois auteurs en même temps en résidence, vous faites fort là ?
On n'a pas davantage d'appartements, donc on se limite à trois auteurs en même temps. Et puis ça crée une dynamique, donc on verra à la fin de la résidence, là on n'en est qu'au début.
Ouais, ça dissimule une grande ambition. Quand on dit on n'a que trois appartements, il y en aurait dix, il y aurait dix résidents.
Bah, y a un étage encore au-dessus de la maison. Donc.
Bien. Bon. Ces trois, est-ce que vous pouvez nous présenter les dispositifs dans lesquels sont ces trois personnes, puisque ce n'est pas les mêmes dispositifs en réalité ?
Oui, on est sur trois appels à candidatures différentes, trois types de résidences différentes. Donc, Axel Sourisseau a été en résidence à la Maison Gracq il y a 2 ans dans le cadre de l'appel à candidature du Comité littéraire, artistique et scientifique. Et on a lancé cette année une résidence croisée, soutenue par le Centre national du livre, avec le Chalet Mauriac. Donc, Axel est présent au mois de septembre à la Maison Julien Gracq et au mois d'octobre au Chalet Mauriac. Michel Pedignelli, c'est dans le cadre d'un partenariat avec anciennement le Festival Noir sur Loire, et nous accueillons depuis une dizaine d'années, donc depuis quasiment le début des résidences à la Maison Julien Gracq, des auteurs de polars et de romans noirs en partenariat avec Noir sur Loire et soutenu également par la bourse est versée en tout cas par le Centre National du Livre. Et Anouk Leksik est présente dans le cadre du coup du même appel à candidature que Axel il y a 2 ans, c'est-à-dire dans le cadre de l'appel à candidature résidence littéraire de création, dont la sélection est faite par le comité littéraire de la maison Julien Gracq. Et je voudrais juste rajouter 2 choses, parce qu'en ce moment, on a 2 appels à candidature en cours. Un appel à candidature à destination des poètes et poétesses iraniens et iraniennes qui viendront en résidence en partenariat avec l'ambassade de France en Iran et Trampo à Nantes. Et ce soir, on lance un nouvel appel à candidature poésie. Ce sont des candidatures, enfin, pour des résidences assez longues de 3 fois 6 mois sur 3 ans et qui est soutenu par la Fondation de France.
Eh bien, que d'activités ? Qu'est-ce que je peux rajouter à ça ? Rien. Sinon, qu'on s'était déjà vu. Effectivement, Axel Sourisseau était déjà venu dans... Non pas... Il n'était jamais venu dans les studios, puisque c'est moi qui m'y étais rendu à la maison Julien Gracq, hein, ce qui m'a mis dans l'embarras quand même pour préparer cette 2e rencontre. Fallait bien que j'évite de me répéter. Donc, je vais éviter de me répéter. Je vais essayer de la faire élégante. Et j'ai hésité longtemps pour conduire cette première émission de la saison. Finalement, je vais la jouer sécurité quand même. Je préfère, ça m'évitera bien des déboires. Et donc, on va avoir une conversation avec chacune et chacun des invités. Et je vais commencer par le mauvais genre, par Michel Pedignelli. Alors, comment allez-vous ?
Moi, ça va bien, mais êtes-vous vraiment en sécurité en commençant par moi ?
J'assure. parce que je sais, bien, puisque nous avons brièvement échangé avant le démarrage de l'émission, que je peux vous tendre 2-3 pièges, et donc je suis tranquille, j'ai des réserves. Bref, vous êtes en résidence à la maison Julien Gracq, dans le cadre, donc, comme l'a dit Jérémy, d'un partenariat avec Noir-sur-Loire. Vous connaissiez la maison Julien Gracq ?
Oui, j'ai ce bonheur parce que je suis venue dans le festival l'année dernière, dans le cadre du festival...
Les préférences.
Les préférences, voilà. Je suis intervenue à Oudon et j'ai aussi fait un atelier dans la bibliothèque de la... J'ai conduit un atelier pour des lycéens dans la bibliothèque de la Maison Julien Gracq et j'ai été émerveillée par ce lieu. Et quand on m'a proposé, voilà, on m'a dit, ça ne te dirait pas de faire une résidence là ? Ben, voyons donc.
Ah oui, ce serait dommage.
Ce serait dommage de s'en passer, oui.
Alors, donc on peut allègrement, et là je ne prends aucun risque, vous ranger dans la catégorie des auteurs de littérature de mauvais genre, qu'on classe dans le mauvais genre. Quel drôle de dénomination. Votre territoire, c'est le polar. Hein.
Oui, c'est le polar, le noir. Avant, on disait aussi que c'est de la littérature de gare. C'est de la littérature, on disait que c'est de la littérature populaire avec un côté un peu condescendant. J'espère que c'est toujours de la littérature populaire parce que moi j'aime ça. Et après tout, oui, moi j'aime le polar et j'aime le noir. C'est pour ça que j'en écris. J'ai pas de raison de me faire du mal. Je suis pas. Les gens n'aiment pas trop les étiquettes, moi non plus en général, mais celle-là me va bien. Quoi. Puis de mauvais genre, j'aime bien cette expression.
Oui, avec une anarchiste, rien ne peut nous surprendre en réalité. Et ce n'est pas une insulte. Hein.
Ah non, justement.
C'est
oui,
revendiqué.
Oui, tout à fait. Et puis l'anarchie est pleine de surprises.
Oui, quand on se documente un peu sur vous, on sait que vous êtes mise à l'écriture très tard, vous aviez 46 ans, donc là je répète tout ce que j'ai lu sur Internet. Hein. Ça, c'est pas faux, puisque vous le dites aussi dans des vidéos, on le voit aussi dans des vidéos. Mais 46 ans pour commencer l'écriture, on peut considérer que c'est pas jeune, mais vous avez écrit avant. Vous étiez dans l'écriture avant, mais sous quelle forme ?
Oui, j'ai été journaliste de presse écrite en commençant ma vie professionnelle. Puis je suis passée à plein de choses. J'ai été formatrice de journaliste, j'ai été conceptrice de site web. J'étais dans l'écriture, mais j'étais dans une écriture qui était formatée, suivant une ligne éditoriale, un nombre de signes définis. Et pendant jusqu'à mes 46 ou 48 ans, je pensais n'avoir aucune imagination. Tout simplement parce que j'écrivais sur des faits. En général, quand on est journaliste, on n'est pas censé fictionner, justement. Donc, par ailleurs, j'avais 3 enfants à élever, donc ça occupe un peu l'esprit aussi. Donc, j'ai passé toute une partie de ma vie à écrire, mais sans écrire de romans ou de nouvelles ou de choses comme ça, à écrire des choses très concrètes et très factuelles, en fait.
Le journalisme, c'était dans les faits divers ?
Pas vraiment, non. J'étais plutôt éducation et société, de manière générale.
Oui, c'est plus aride, là. Hein.
Et le fait divers, j'y suis arrivée par le côté historique, justement, grâce à la BNF et aussi Tretro News, dans lequel, effectivement, comme c'est l'histoire par la presse, nous traitons de sujets divers et variés. Ça peut aller du mariage de Louis XVI à l'arrestation de la bande à Bonneau, mais via la presse de l'époque. Donc, je retrouve ce côté faits divers et grandes affaires judiciaires dans ce site-là, grâce à la BNF.
Très, très belle initiative de la BNF, ce site Retro News. Enfin, magnifique travail pour tous les passionnés de journalisme et d'histoire du journalisme. Il y a vraiment beaucoup à prendre et on en reparlera tout à l'heure. Vous écrivez dans des journaux, vous faites plein de choses parce que, comme vous le dites, vous avez des bouches à nourrir, donc il faut bien les nourrir, il faut gagner sa vie. Hein. Et puis, soudain, 46 ans, vous dites, tiens, j'écris, ça y est, je vais écrire un roman policier. C'était aussi soudain que ça ou ça a commencé autrement ?
En fait, ça a commencé grâce à une nouvelle, un concours de nouvelles qui était organisé par le festival Toulouse Polar du Sud, qui est un énorme festival de polar, qui est le deuxième après Lyon. Et tous les ans, ils organisent un concours de nouvelles. Et J'ai envoyé la mienne en 2015 et de manière très étonnante, je suis arrivée dans les trois lauréats. Ce qui voulait dire qu'il y avait des gens qui ne me connaissaient pas, m'avaient lu et avaient aimé ce que j'ai écrit. Donc je suis allée sur place pour récupérer mon prix, parce que je suis très vénale. Non, mais surtout pour voir ce que c'était qu'un festival de polar, parce que moi je lisais beaucoup de polar, mais je n'étais jamais allée dans un festival. J'ai rencontré des gens absolument extraordinaires, des auteurs que je lis. Et après cette nouvelle, j'ai eu pas mal de pression amicale et amoureuse aussi pour me dire « mais pourquoi tu n'écris pas plus long ?» Et je me disais bah, « parce que c'est un métier, ce n'est pas le mien, je ne sais pas, ce n'est pas ma place ». Enfin, ce genre de choses, je ne m'étais pas complètement autorisée à. Et finalement, les choses ont fait que ben, je me suis autorisée à. Et je me suis dit « bon, si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas si tu sais le faire ou pas ». Et je me suis lancée dans l'écriture du premier manuscrit.
Alors, ce qui m'intéresse, parce que quand... Je l'ai dit, on trouve des informations sur vous sur Internet, 46 ans, premier roman, etc. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de la nouvelle ? Est-ce que dans vos tiroirs, il y avait plein de textes comme ça qui dormaient ? Ou alors qu'un matin, vous êtes réveillé, vous dites « Hop, tiens, je vais écrire une nouvelle et puis je vais l'envoyer au concours de nouvelles de polar ».
Mais c'est plutôt ça, j'avais rien dans les tiroirs. Enfin, j'ai des trucs qui doivent dater de quand j'avais 12 ou 13 ans, quoi. Ouais. Bon. Mais, enfin, c'est même plus dans les tiroirs, je pense que c'est perdu dans les déménagements. Mais en fait, le concours, cette année-là, il n'y avait pas un thème précis, c'était une photo. C'était la photo d'une statue d'un Janus antique à deux têtes assez abîmée, qui était une statue qui est dans un des musées de Toulouse. Et ça m'a particulièrement inspirée. Je ne peux pas le dire autrement. Je pense que si ça avait été un thème, genre, je ne sais pas quoi, l'amitié, le truc, ça ne m'aurait pas déclenché. Mais cette photo, elle m'a raconté mais tout de suite une histoire. Donc, je l'ai racontée voilà, à la première personne. Finalement, je m'aperçois que j'écris pas mal à la première personne. Et j'ai déjà raconté donc, cette nouvelle. C'est le côté féminin qui raconte l'histoire de cette statue.
Et donc, vous entrez dans le grand bain, des pressions amoureuses, amicales qui disent oh, c'est trop court la nouvelle, faut écrire un peu plus loin. Et puis vous y allez franco, hein, vous n'hésitez pas et vous apportez votre pierre au grand œuvre du polar en lui offrant une nouvelle héroïne. Alors, je vais essayer de le dire correctement, hein, Giulia Boccanera.
Très bien, parfait.
Voilà, c'est bon, j'ai passé un test. Un nouveau test, après, sera plus compliqué. Que vous avez, dont le surnom est Diou. Hein, et alors, dans le premier roman qui s'appelle Boccanera, vous installez tous les personnages qui vont être la galaxie Boccanera. Mais est-ce que dans ce premier roman, alors il y a son ex-mari qui est policier, il y a Dan, un bizarre personnage qui est son coloc, qui est galeriste et homosexuel. Il y a un Allemand mutique, Ferdi. Il y a un obèse qui s'appelle Shérif, mais qui est inspecteur du travail, qui mange des sandwichs à la mayonnaise. Ça, c'est une galaxie que vous avez composée. Il y a d'autres personnages, hein, il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est une galaxie que vous avez composée, mais dès le départ, pour vous, c'était nécessaire de composer ce paysage-là ?
Oui, parce que le personnage central, Diu, ne peut pas vivre seul. Enfin, déjà, c'est un être éminemment sociable. Et puis, de toute manière, on ne peut pas vivre seul. Donc,
elle n'est pas facile non plus. Hein.
Non, bon. Mais elle ne peut pas vivre seule quand même. Ce n'est pas une ermite. Enfin, elle n'a pas un côté ermite ou misanthrope. Au contraire, elle a une grande empathie pour les gens. Et effectivement, elle n'a plus de parents et elle n'a volontairement pas d'enfants. Donc, on pourrait dire qu'elle n'a pas de famille, qu'elle est seule. Mais non, au contraire, elle s'est créée sa famille, sa tribu, en choisissant les gens. Donc, son coloc, qui est comme son frère, son ex, qui est toujours l'amour de sa vie et qui traîne dans les parages. Et effectivement, les gens qui sont... Bah, qui des gens qui vivent, qu'elle côtoie. Et pour moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, je pense, dans ce que j'écris, ce sont les personnages, les dialogues entre les personnages et les personnages, parce qu'en fait, j'aime beaucoup. C'est très cliché, mais je suis à une terrasse de café, j'écoute. J'écoute les gens, je les regarde, j'essaie de choper les intonations, les accents, les façons de se parler ou les façons de se taire, ce genre de choses. Et ça compose les personnages ensuite. Ouais.
Donc, une tribu, votre terrain de jeu, c'est Nice. C'est un terrain de jeu idéal hein, quand même, parce qu'il y a tout ce qu'il faut là, à Nice. Hein. Il y a une mairie parfaite, il n'y a pas de concussion, pas de problème de collusion entre monde politique et monde des... Il n'y a rien de tout ça,
du tout. On vit dans une espèce de monde de bisounours et de licornes.
Avec un magnifique maire.
Avec des arcs-en-ciel, oui. Et un député.
S'appelle
Éric Ciotti. À lui tout seul, ça... Il nous fait des romans avec des rebondissements à peu près tous les jours. Donc là, maintenant, il s'est mis dans la position du traître, tout ça, un peu shakespearien, c'est très intéressant. Mmh. Oui, Nice, c'est une ville. D'abord, j'ai écrit le premier comme étant une lettre d'amour à cette ville. D'abord parce que j'ai vécu 22 ans à Paris, donc je sais ce qu'on dit sur Nice et les Niçois quand on est parisien ou quand on habite à Paris. Donc il y a plein de choses qui sont vraies hein, dans ce qui est dit, notamment quand on dit que c'est une très belle ville. C'est une très belle ville, je ne pourrais plus vivre ailleurs. Mais c'est aussi une ville effectivement qui est gangrénée depuis très longtemps par des collusions entre le monde des affaires, la politique, le bâtiment. Alors non,
le bâtiment va très bien. Il est très présent dans vos romans. Hein. Il y a du bâtiment. Hein. Il y a du BTP.
C'est-à-dire que la ville est en transformation permanente et on a des chantiers et pas des petits machins. Ah oui. Des trucs de 36 000 m2, par exemple, et là, dernièrement, il y a un immeuble de 36 000 m2 qui s'enfonce de 16 cm parce qu'il est construit sur une plaine inondable.
Ouais.
Mais.
Allons.
Donc, je voulais vraiment écrire, et je voulais parler de Nice et montrer qu'il y a des facettes différentes dans cette ville. Il y a quand même 21% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté à Nice. C'est 14% à l'échelle nationale. Donc, si on prend les pourcentages un peu au-dessus du seuil de pauvreté, ça fait quand même un quart des gens qui ne sont pas très bien, dont on ne parle jamais. Et entre ça et les propriétaires de yachts, il y a encore une classe moyenne, des gens, des profs, des commerçants.
Il y a des gens normaux, quoi, des gens normaux. Des Niçois.
Oui,
en fait, on appelle ça des Niçois.
Voilà, c'est ça.
Toujours dans cette... je pense que vous inscrivez dans la tradition du polar français. Un personnage principal qui a du mordant, qui est ironique, qui est un peu cynique, qui ne se laisse pas faire. Une femme, par contre, là, on est un petit peu dans un autre monde, parce que souvent, c'est des mecs. Hein. Là, vous avez mis une femme en présence. Est-ce que c'est une envie de s'inscrire dans cette... Parce que c'est aussi... comment dire ? Il y a une tradition du roman, du polar, du noir français, qui est toujours un peu... Il y a un côté politique derrière. C'est toujours un côté politique derrière. C'est-à-dire la volonté de dire la société. Vous vous inscrivez dans cette filiation-là ?
Oui, clairement, oui. Cette filiation du polar français qui est, si on pense à Manchette, à Jean-Bernard Puy, à Patrick Reynal...
J'allais citer ces noms.
Pardon.
Donc, et Fajardi.
Et Fajardi, mais voilà, c'est vraiment gratter. Le polar, il est là pour gratter là où ça fait mal. C'est soulever le tapis et voir, et se demander qui a mis la poussière dessous et pourquoi. Et c'est aussi une tradition dans le noir américain, hein, à bien des égards. Donc oui, là, clairement, je m'inscris là-dedans, mais par contre, effectivement, j'ai imaginé une femme, et qui plus est, une femme qui a 48 ans dans le premier tome, dans Bocanera, donc qui n'est pas jeune, qui a déjà fait des choix assez clairs dans sa vie, et qui, comme elle a 48 ans, est bientôt ménopausée, et ça, c'est pour ceux qui arrivent.
On sent bien dans son collier qu'elle est ménopausée. Hein,
et que c'est assez récurrent. Ça arrive à toutes les femmes d'à peu près cet âge-là. Il fallait bien en parler à un moment.
Oui. Dernière question. Est-ce que y a une nécessité, du moins, est-ce que vous pensez que la fiction pour raconter la société est plus forte que le réel?
Oui. Alors, je dirais oui comme ça, parce que moi, je pense que Alors la fiction ou l'œuvre d'art de manière générale, le choc esthétique pour moi est quand même, par exemple pour moi, à déclencher des choses qu'un article de journal ou un livre d'histoire n'aurait pas déclenché, quoi, que ce soit sur l'Argentine ou des choses comme ça quand j'étais jeune. Et puis, on peut parler justement le polar, on va parler de plein de choses. Je vais dire, il y a un meurtre, il y a une enquête, ou il y a une quête, enfin voilà. Mais l'intérêt, c'est de parler de tout ce qu'il y a autour. Et contrairement à un travail de journaliste, on n'est pas obligé de sourcer, de... Voilà, on peut raconter, on peut amplifier. Et souvent, on en parlait, on baisse de quelques tons par rapport à la réalité. Parce que si on écrivait la réalité, on ne nous croirait pas. Moi ça m'arrive, moi je laisse passer des choses comme ça, mais par petites touches, parce que j'ai pas envie d'écrire un manifeste. Mais ouais, je crois que la fiction est nécessaire, plus que nécessaire, oui, pour comprendre. Alors le monde, c'est un peu grandiloquent, mais pour comprendre des questions qui à côté desquelles on passerait sinon.
Ben, je vous remercie Michel Pedignali, on va faire une première pause musicale.
S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce verre jamais bu. S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce mot jamais dit. Demain sera l'immense, par des grâces, des uppercuts.
Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
J'ai cru rater, mais cette mauvaise pierre fut un beau silex, un joyau sirim, sirim.
Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
Poussière du Sahel que viennent jeter des œufs sur l'Europe, les frontières se déchiquettent, des messages arrivent télépathes.
Aguedalu, Amandie, Amanjo, Afandiere. Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
S'il ne reste rien à dire, il reste deux oranges au jardin des délices, ce verre jamais bu, le ciel se couvre d'îles.
Aguedalu, Amandie, Amanjo, Afandiere. Amasanjo, Amanjo, Mandiego. Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
Amasanjo, Amanjo, Mandiego. Amasanjo, Amanjo, Mandiego.
Vous venez d'écouter un des derniers titres de l'audio qui s'appelle Mandiego, sur leur dernier album, magnifique titre, comme d'habitude avec l'audio. Vous écoutez Entre les pages et ce n'est que sur Radio G, fréquence 1.5. Aujourd'hui, pour ce numéro de rentrée, je reçois les autrices et auteurs en résidence à la maison Julien Gracq, Michel Pedignali, Axel Sourisseau et Anouk Legjic. Nous venons d'entendre Michel Pedignali. À vous, Axel Sourisseau.
Avec plaisir.
Nous nous sommes rencontrés une première fois le 16 mars 2022 et on avait parlé de vos deux premières de vos deux publications, pas première parce que ce serait erroné, donc Le Ravin ou Ritournelle et Catafalque. Pendant ces deux ans, est-ce qu'il y a eu à nouveau de l'itinérance ?
Alors, très peu d'itinérance au cours des deux dernières années, puisque chaque cheminement d'auteur et d'autrice comprend des périodes, de job alimentaire, de parenthèse où on n'a pas forcément le temps, l'énergie ou juste la chance de continuer à voyager ou à écrire au long cours. Donc là, je sors de ma coquille à l'occasion de cette résidence. Donc pour moi, c'est ma grande rentrée.
C'est votre grande itinérance. Nantes, Saint-Florent-le-Vieil, quelle expédition.
C'est déjà quelque chose.
Juste pour rappel, lors de cet entretien de 2022, ce qui était ressorti, c'était votre rapport à l'ailleurs, à ce qui est pas exotique, loin. Et loin, plutôt au Moyen-Orient. Hein, on est là, puisque vous avez même inventé un peuple, enfin une... vous avez inventé...
Une civilisation, quelque part.
Une civilisation, voilà, tout à fait. Ça, c'était il y a deux ans. On s'était séparés, vous aviez dit que vous aviez un projet de roman, que vous aviez un recueil de poésie kénarine. Vous en êtes où de ça ?
Alors, le roman est toujours en cours. Je pense que ça va être mon Iliade et mon Odyssée à moi. Donc c'est dans un coin de ma tête et un coin de mon bureau. J'avance lentement. Il y a des temporalités toujours singulières selon les projets. Et puis le recueil que vous évoquiez qui prolonge effectivement ce cycle kénaride, alors que j'intitule pour le moment Les vies anonymes, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, il est en lecture chez l'un de mes éditeurs. Il devrait être publié, mais ça va prendre un petit peu de temps. À nouveau, la temporalité du livre.
Alors là, on est dans le papier. Mais vous avez une grosse activité dans le numérique, dans les revues. Moi, j'ai été intéressé par le journal de Dalmatissime. Alors moi, j'aurais tendance à dire que vous êtes un usurpateur en vous appropriant ce personnage.
Peut-être.
Un faussaire en prétendant avoir découvert un nouvel alphabet. Un falsificateur en prétendant parler une langue perdue parce que vous la parlez. Et vous répondez quoi à ces trois accusations quand même, hein ? Ce sont des accusations lourdes. Hein ? Falsificateur, faussaire et usurpateur.
Je dirais plutôt que je suis peut-être un découvreur et un vulgarisateur de cette civilisation imaginaire que j'étoffe au fur et à mesure des écrits. Alors effectivement, il y a peut-être il y a toujours des emprunts. Ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas créer en fait un exotisme gratuit. Ou quelque chose qui pourrait, on est quand même en 2024 dans des questionnements assez importants en littérature, notamment décoloniale. Donc je fais en sorte justement d'inventer tout un monde. Et effectivement, on peut y retrouver en revanche un syncrétisme des emprunts de civilisations anciennes ou plus contemporaines qui existent. Après, j'essaie aussi de brouiller les pistes. Et puis après, ce qui est aussi peut-être un peu singulier dans un parcours littéraire, c'est que on étoffe au fur et à mesure des livres aussi ces univers-là. On en dévoile différents pans. Et justement, c'est vraiment parfait que vous évoquiez ce journal Dalmatissime qui effectivement a apparu dans la revue Fragile, la revue en ligne Fragile, puisque c'est le personnage qui fait l'objet du recueil que je travaille en résidence, que j'écris et que j'étoffe, et où là je joue un peu plus carte sur table par rapport au précédent recueil.
Alors, Avant de revenir à Almatissime, est-ce que vous sentez, alors on a parlé de filiation avec Michel Pedignelli, mais une filiation avec quelqu'un comme Tolkien?
Alors, c'est une référence qu'on mais enfin voilà, on m'en parle souvent. Je n'aurais pas la prétention, voilà, de me comparer à Tolkien, d'une part parce que je n'ai pas forcément, d'une part, le bagage universitaire et la connaissance de certaines civilisations que lui avait. Et puis aussi, même si je crée un imaginaire avec aussi effectivement son écriture, sa mythologie, j'essaie peut-être de m'écarter justement davantage de mes inspirations. Voilà, là où Tolkien a un travail qui s'inspire beaucoup des épopées nordiques, de cette mythologie. Bon, moi, je syncrétise, je crois, un peu plus. Et puis, voilà, je suis dans un imaginaire qui est peut-être un peu différent, moins guerrier.
Alors, je ne parlais pas des contenus, je parlais plutôt de la démarche. C'est-à-dire que Tolkien, dans toute sa saga, a inventé une langue, a inventé un peuple, exactement comme vous le faites. C'est ça que je... Alors, je ne dis pas que... Alors, avant que vous releviez le défi de Tolkien, il y a quelques milliers de pages qui vous séparent quand même, parce que vous êtes plutôt dans la synthèse, là. Hein. Vous, on est loin du Seigneur des Anneaux, là. Hein. Donc voilà. Alors, Almatissime... le journal d'Almatissime, c'est le journal d'une archéologue.
Tout à fait.
Donc déjà son nom, c'est un nom oriental, moyen-oriental. C'est pas un nom européen. On ne sait pas. Hein. On ne sait rien.
On ne sait pas. Je laisse à chacun et à chacune le soin de choisir une appartenance géographique à cette personne.
Et qui travaille donc dans la cité de Kinra.
Exactement.
Et donc qui révèle les écritures, les poteries, les modes de vie, enfin qui fait un travail d'archéologue, quoi.
Tout à fait.
Alors on parlait en micro et ça tombe, le hasard fait bizarrement les choses puisque Michel Pedignelli est juste en face de vous et elle a écrit un article pour le journal Retro News sur une femme qui s'appelle Jane Dieulafoy. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur Jane Dieulafoy? Michel Pedignelli.
Oui, c'était une archéologue
française.
Oui, d'un coup j'ai un vieux doute.
Française, oui. Mariée à un Français,
voilà.
Un militaire français.
Et qui aussi avait la particularité de, voilà, elle avait décidé de s'habiller en homme, ce qui à l'époque n'était pas. Et voilà, elle s'est affranchie de, je crois qu'elle s'est affranchie de beaucoup de choses, de beaucoup de pression de son époque. À travers, en fait, son travail d'archéologue lui a permis de briser pas mal de plafonds de verre ou pas de verre d'ailleurs. Donc, je ne sais pas si ça correspond aussi à ce que fait ton personnage.
Il y a une grande similitude.
D'accord.
Alors, moi, j'ai lu d'abord le journal d'Almatissime, et puis en travaillant, en préparant cette émission, j'ai retrouvé votre article dans Retro News. Et ça m'est apparu comme archéologue, fin du 19e siècle, l'Irak. Enfin, donc, on est dans des configurations très identiques. Et avec une femme extraordinaire, Alexandra David-Nil ou autre, dans ces grandes aventurières. Donc, il y a ce journal qu'on peut consulter donc, sur la revue. Rappelez le nom de la revue, s'il vous plaît.
La revue Fragile.
La revue Fragile. Donc, on peut consulter, lire ce journal dans la revue Fragile sur Internet. Il suffit d'aller sur le site. Et puis là, en 2023, vous avez publié un recueil qui s'appelle « Nos bouches gorgées d'herbes pourpres ». Et vous semblez là plutôt changer un peu de spectre dans votre travail d'écriture. Là, on va plus dans l'intime, dans quelque chose de plus personnel, on est moins ailleurs, on est plus dedans.
Alors c'est peut-être effectivement un recueil qui marque un tournant, qui est plus introspectif. Effectivement, il y a un dialogue, entre deux amants, on retrouve quand même un paysage voilà, un peu étrange, avec ses marais assez âpres et inhospitaliers. Et puis, effectivement, un recueil dans lequel j'assume beaucoup plus une poésie fragmentaire, qui est vraiment même liminaire à certains endroits.
On avait parlé des blancs dans vos livres lors de la première conversation, mais on reste J'y aussi tiens. Dans le...
les blancs, les silences, les ellipses, je trouve que effectivement c'est une manière, alors peut-être des fois un peu osée, mais de créer des reliefs. Je crois que ça, dans un monde en tout cas où on est abreuvé de beaucoup d'images et de beaucoup de mots, beaucoup de slogans, voilà, je trouve ça bienvenue parfois d'avoir en poésie, en tout cas parfois des petites respirations.
Je vais vous remercier, Axel Sourisseau, pour de vous être cette fois-ci déplacé, de m'avoir rendu visite. J'en suis fort honoré.
Merci à vous.
Et je me retourne vers Anouk Lejic. Bonjour Anouk Lejic.
Rebonjour.
Rebonjour. Alors, vous êtes l'autrice de deux livres, Félix Silvestris et Copeaux de bois. Copeaux de bois qui est sous-titré Carnet d'une apprentie bûcheronne. Et tout ça, c'est publié aux éditions du Penseur. Qu'est-ce qui fait lien entre ces deux livres-là?
Ça peut s'entendre dans le titre, c'est la forêt qui fait lien, abordée de manière très différente dans les deux livres, tant sur le fond que sur la forme. Le premier est une fiction, un roman un peu plus classique, quoique très fragmentaire aussi, avec du blanc, du silence. Et Copeaux de bois se présente plutôt sous la forme d'une poésie documentaire, mais je crois que dans les fichiers des libraires, il est quand même enregistré comme roman.
Ah oui, alors que c'est véritablement un carnet, journal. Enfin, moi, je l'ai lu comme un journal, hein, presque. Hein.
Ouais, c'en est un.
Ouais. Dans le premier, donc, Félix Silvestris, c'est très étrange, parce que dans Félix Silvestris, c'est une jeune femme qui parle. Elle parle de sa sœur, elle parle de son père, elle parle de sa mère. C'est elle qui est le pivot du roman. On a l'impression que qu'elle est atteinte de logorrhée, cette femme.
Ah ouais, je la sentais pas comme ça. Elle parle de sa sœur et elle s'adresse à sa sœur aussi,
oui.
Puisque sa sœur aînée est un personnage absent. Et je pense qu'elle en construit un peu la mythologie familiale pour peut-être se réemparer de ce récit-là et aussi combler le vide que le départ a laissé. Et elle fait aussi, oui, une sorte de trait d'union entre les membres épars de cette famille. Donc pour moi, c'est plus une chambre d'écho aussi, parce qu'elle reçoit beaucoup les paroles, les inquiétudes de la mère et du père. Je la sens pas atteinte de logorrhée. Hein. Elle est aussi capable de silence.
Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, je me suis demandé qui était cette jeune femme. Donc elle habite dans un appartement qu'on lui a prêté. Et je me suis dit, mais est-ce que tout ça n'est pas fictif? Est-ce qu'on n'est pas que dans sa tête? Enfin, pendant un moment de la lecture, je me suis dit, mais finalement, elle s'est inventée une famille. Elle s'est inventée cette sœur qui est dans une ZAD, alors qui défend une ZAD, des arbres, contre une entreprise qui s'appelle La Firme. Tout ça, je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je parle de logorrhée. Hein. C'est vraiment dans cette... Parce que moi, je l'ai lu comme ça.
Ouais, c'est une possibilité interprétative que je laisse ouverte. Effectivement, la forêt et la vie de sa sœur dans cette forêt est une projection assumée comme telle. À aucun moment, la sœur ne prend la parole. Donc, à partir de là, chacune se fait son idée de l'existence ou pas de cette sœur et du reste de la famille. Parfois, on me parle de deuil aussi, de sœurs qui potentiellement... est décédé avec cette adresse, ce tu qui serait celui qu'on pourrait prononcer comme sur la tombe d'une personne, par exemple. Et ça laisse, enfin, c'est aussi une possibilité que je laisse ouverte.
Mmh. Tous ces éléments-là, moi, j'y ai pensé. J'y ai vraiment pensé. Enfin, je voyais une absence, plus qu'une présence de la sœur, je voyais une absence de la sœur, mais pas une absence, comment dire, géographique, une absence, voilà, elle n'est pas là. Mais je suis allé un peu plus loin, puisque je me suis dit, même, elle n'est tellement pas là qu'elle a été inventée. cette sœur, donc, elle est dans la forêt, elle est partie dans une forêt, rejoindre les occupants d'une ZAD. Vous, c'est la forêt. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt ? La forêt générique, générale.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans la forêt ?
Qu'est-ce qui vous attire dans la
forêt ? La réponse me paraît trop simple.
Qu'est-ce qui vous attire dans la forêt ? Quel mythe ? Ah non, il n'y a jamais de piège. Quel mythe, quel fantasme ? Qu'est-ce qu'il y a derrière la forêt pour vous ? Parce que ça revient, on va en parler, dans Copeaux de Bois, la forêt, elle est là, quoi. Hein.
Oui, la forêt est là dans mes livres parce qu'elle est là de manière forte dans ma vie, ou en tout cas, je la cherche beaucoup. Elle est là dans notre imaginaire collectif, et c'est cette matière-là que je travaille aussi et que j'essaye de prendre un peu à revers dans Copeaux de Bois, en essayant de montrer une sorte d'envers du décor vis-à-vis des forêts qu'on peut fréquenter en France, qui représentent un tiers de notre territoire et sur lesquelles chacun, chacune a ses idées. Et ses envies et ses fantasmes et ses besoins, et notamment le besoin de la croire éternelle, de la croire, comme indépendante des êtres humains, et tout en voulant s'y promener. Et moi, je pense que c'est ce qui est au cœur de mon désir de l'écrire, c'est de peut-être essayer de créer mon juste lien avec elle, mon juste usage de cette forêt, que ce soit un usage par l'imaginaire ou par l'utilisation d'une tronçonneuse.
Donc, dans Copeaux de Bois, carnet d'une bûcheronne, vous décidez un jour de faire une formation de bûcheronne. Et ce livre, moi j'ai l'impression que vous dynamitez deux aspects. Alors, la question du genre, une bûcheronne, donc dans la tête de beaucoup de gens, se dire une femme avec une tronçonneuse, vous réglez le problème très très rapidement, quoi. C'est une femme qui a une tronçonneuse.
Bah oui, la réponse est dans la question, oui. Ça aide d'avoir une tronçonneuse à la main.
Non, et donc il y a quand je parle du genre, c'est que vous en faites pas un sujet, mais à chaque fois que vous êtes face à des hommes qui ont des comportements qu'on pourrait qualifier de sexistes, vous en faites pas une montagne, vous remettez la personne à sa place, et puis c'est tout.
Oui, ça c'est, je pense, ma manière d'être féministe, et il y en a plein de possibles, et je pense que tous ces possibles doivent exister. Moi, je suis peu militante dans ma vie de tous les jours, par contre, ma manière de faire, c'est d'occuper le terrain, là où on ne m'attend pas forcément, mais c'est ce que je fais en forêt. Et effectivement, pendant ma formation, je prenais le parti d'être là, de faire mon travail bien, et voilà, et de m'en tenir à ça. Ce qui n'empêche pas plein de relations de camaraderie que j'ai nouées au fil de l'année. Mais en tout cas, c'est comme ça que je me plaçais à égalité et sans presque me poser la question vis-à-vis des hommes que je côtoyais.
Et puis, dans Copeaux de Bois, vous abordez la question du mythe de l'écologie. C'est-à-dire, dans la tête des gens, l'écologie, il faut laisser la nature se développer, s'installer, et puis pas y toucher, il ne faut surtout pas y toucher. Le bûcheronnage, le travail en sylviculture, ce n'est pas du tout ça. Au contraire, pour permettre à la nature de se développer, ben, il faut la travailler, cette nature.
Oui, enfin, c'est, disons que c'est une écologie qui nous inclut en tant qu'êtres humains dans les écosystèmes et qui inclut nos besoins. Après, nos besoins sont bien sûr beaucoup trop grands, beaucoup trop nombreux par rapport à ce que les forêts peuvent nous fournir. On va trop vite, on lui en demande trop. Mais en tant que sylviculteur, en tant que bûcheron, en tant que forestier, forestière, il est tout à fait possible d'avoir des vues à la fois pragmatiques et durables en pratiquant une sylviculture douce. Et c'est pas incompatible. Pour moi, cette question des usages est primordiale. Et au début du livre, le formateur principal se présente, Max-Antoine, et il dit « Je suis écologue, je suis pas écolo ». Et ça, en fait, c'était pour lui une manière de mettre à distance l'idéologie et ce qu'on pourrait y mettre derrière, ce qu'il avait sans doute peur qu'on mette, nous, derrière notre envie de travailler en forêt. Et Bon, moi, j'ai pas de mal à dire que je suis écolo. Je pense qu'on, l'est tous, qu'on doit tous l'être. Non, ça, c'est dans ma tête qu'on l'est tous. Mais je pense qu'on l'est en habitant la Terre, en fait, de manière très, très primordiale. C'est juste qu'on l'oublie un peu.
Ce que je veux dire, c'est qu'à plusieurs reprises dans le livre, faut couper des arbres, C'est pas d'abord parce qu'il y a des arbres qui sont pas à la bonne place, pas au bon endroit, qu'il faut éclaircir les forêts. C'est exactement ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la nature, on est très présent, mais il faut lui laisser du temps, mais il faut aussi savoir l'observer. Et tous les formateurs que vous rencontrez, sous leur côté un peu brut, un peu brutaux, tous les formateurs sont très très sur le terrain en réalité.
Oui, ce sont tous des personnes qui ont un métier à côté aussi, de bûcherons, d'élagueurs, gestionnaires d'espaces verts. Et chacun, en fait, quasiment nous a dit une fois, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on imite la nature en accélérant son processus. Et ça, c'est vraiment le travail des sylviculteurs.
Moi, je voudrais vous demander de lire un extrait de Copeaux de bois. Si vous voulez bien.
Avec plaisir. Lequel ?
Le dernier. Celui que je vous ai dit que je voulais que vous lisiez, c'est tout. C'est donc le dernier fragment qui s'appelle, j'ai plus le titre en tête.
Qui s'appelle En devenir.
Voilà.
Donc je dois prévenir qu'on divulgage complètement la fin de ce livre qui était pourtant plein de suspense.
Bah oui, c'est ça qui est terrible.
Donc juste pour contextualiser, ça arrive à la fin du livre. C'est... Comme je le disais aussi au début, c'est un long poème documentaire, ou plutôt une longue suite de poèmes documentaires. Donc là, c'est un texte qui porte le titre « En devenir ». Et ça arrive à la toute fin de la formation, au moment où il était question de rendre un herbier. Et c'était juste après l'examen final qui s'était pas très bien passé pour moi. Mais j'ai eu mon examen. En devenir. Le soir, je trouve refuge dans mon herbier, mais je continue de ruminer mes foirages. Il faut que je me fasse à l'idée. J'abats mal, mais j'arborise bien, et j'écris de belles légendes. Après tout, je suis autrice, pas bûcheronne. Et puis si je bosse un jour en forêt, ça sera en sylviculture ou en gestion. C'est peut-être mieux comme ça. Ça me freine dans mon élan destructeur. Oui, c'est vrai, je me suis peut-être rendue service en me chiant dessus pour l'examen. À 1h40, j'abandonne l'idée de finir l'herbier. J'ai déjà fait bien plus que ce qui m'a été demandé, et ce travail est sans fin. J'aimerais l'avoir commencé depuis toujours, ramener des rameaux de plein de pays, mais bon, il n'est jamais trop tard. Réveil dans 4 heures, dernier jour au centre, et ensuite, je vais continuer à apprendre, je vais me remettre à écrire, et le jour où j'aurai un bois, ou qu'on fera appel à moi, j'aurai oublié l'examen et je pourrai dire « Oui, je peux couper ces arbres pour avoir de quoi nous chauffer cet hiver et faire entrer la lumière. »
Je vous remercie pour cette lecture. Le temps passe vraiment trop vite avec vous. Vous êtes toujours sur Radio G, fréquence 101.5 et vous écoutez Entre les pages. Et c'est maintenant l'heure de la nouvelle chronique lue et approuvée, une toute nouvelle proposition. Dans ce petit moment, je vais à la rencontre d'une ou un acteur du monde des livres en Anjou pour qu'il nous parle d'un livre coup de cœur, pour elle ou lui. Et aujourd'hui, place à Sophie Vacher. Nous sommes dimanche et je suis dans une librairie indépendante. Et oui, si vous avez un besoin impératif, voire compulsif, d'acheter un livre à Angers un dimanche matin, c'est possible. C'est 65 rue Beaurepaire et dans un très beau lieu, la librairie L'Étincelle. Et je suis accueilli par rien moins que la patronne, Sophie Vacher. Bonjour, Sophie Vacher.
Bonjour.
Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, vous êtes nichée au cœur de la Doutre, et c'est tout nouveau. Depuis quand vous avez créé cette librairie, la librairie L'Étincelle ?
Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. Et donc, j'ai créé l'Étincelle il y a tout juste un an, j'ai fêté les un an hier en faisant un message à tous mes clients habitués. Et pour moi, c'était une année riche en émotions et une très belle année, pour tout vous dire.
Quand on entre chez vous, de toute évidence, il y a un parti pris. Et ce parti pris, c'est lequel ?
C'est le plaisir de la lecture. Qu'importe que ce soit de la littérature classique, de la littérature engagée, de la littérature de haut niveau, comme on peut dire parfois, c'est surtout le plaisir de la lecture, d'être embarqué par un livre, de s'y voir, d'avoir envie de s'y plonger, de ne pas le quitter. C'est exactement ça, et quel que soit l'auteur, l'autrice, c'est ça, le plaisir de la lecture, et c'est ce que j'ai voulu partager en créant un lieu où on se sente bien, aux antipodes d'une librairie qu'on peut parfois trouver élitiste.
Ce projet, il a mûri pendant combien de temps dans votre tête ?
Oui, en effet, je suis une jeune libraire en expérience et pas en âge, vous avez raison. Mais j'ai eu une première expérience dans le métier il y a de nombreuses années en reprenant une maison de la presse dans les Vosges, dans laquelle j'avais créé un petit rayon librairie. Et ça m'avait tellement passionnée que je me suis dit à l'époque, un jour, j'aurai ma librairie. Plutôt en fin de carrière, parce qu'on sait tous qu'une librairie n'est pas un commerce très rémunérateur. Donc il fallait un petit peu quand même gagner sa vie avant. Ce que j'ai fait par d'autres métiers, divers et variés, j'ai été dans l'environnement de travail, dans les achats, ce qui n'a rien à voir avec la librairie ni les livres. Et puis, il y a un an et demi, deux ans, l'idée est revenue. Une envie de changer, une envie d'être plus proche de mes valeurs, plus proche de l'humain. Et c'est là que je me suis dit, allez, j'y vais. C'est plus tôt que prévu, mais j'y vais, je me lance. Et avec une grosse dose d'enthousiasme.
On est donc dans la Doutre. Alors, on est rive droite. Hein. Alors, d'habitude, les librairies, la culture, c'est plutôt du côté de la rive gauche. Hein. Mais là, on est rive droite, au cœur de la Doutre. On sent bien que cette librairie, vous l'avez faite selon vos désirs. Hein. On entre dans cette librairie. Il y a un premier grand lieu où il y a toute la littérature. Un peu générale. Et puis, il y a une arrière-salle. Il y a une arrière-salle qui est réservée au mauvais genre, le polar, entre autres. Et je peux vous dire que du polar, il y en a un. Oh là, ça, c'est impressionnant. Là, je suis assis devant les rayonnages de polar et il y en a un sacré paquet. Donc, vous l'avez fait selon votre envie. C'est quand même un gros investissement.
Oui, mais en fait, pour moi, la librairie, je voulais créer le lieu que j'avais toujours eu envie de trouver en tant que lectrice. D'où aussi l'ouverture du dimanche. D'où aussi un gros rayon polar dans une petite librairie. D'où aussi un gros rayon science-fiction imaginaire. C'est vraiment, j'y ai mis de moi. J'ai choisi chaque livre et je continue à choisir chaque livre en travaillant énormément le fond. Mais je pense quand un lieu vous ressemble, ce lieu rassemble aussi. Et c'est ce qui se traduit là depuis un an avec le beau démarrage de l'Étincelle. Et j'en suis vraiment touchée et ravie.
Pour ce premier anniversaire, vous participez à la naissance d'une chronique dans l'émission Entre les pages. Une chronique que j'ai décidé d'intituler « Lue et approuvée ». Le principe, c'est tout simple. L'invité présente un livre, un de ses livres coup de cœur. Alors, compte tenu de la période, possiblement de la rentrée, mais c'est pas obligatoire. Alors, vous nous présentez quel livre aujourd'hui ?
Alors, j'ai choisi « Les âmes féroces ». C'est le deuxième roman de Marie Vintras aux éditions de l'Olivier. J'ai choisi ce livre-là parce que j'avais adoré son premier roman, « Blizzard ». Et j'étais très curieuse de voir comment elle allait transformer l'essai pour son deuxième roman. On dit toujours que c'est le plus dur à écrire. Eh bien, j'ai été bluffée parce qu'elle a imaginé à nouveau un roman choral, mais construit de façon très originale en quatre saisons. En fait, tout commence avec la mort de Léo, une lycéenne de 17 ans, dans une ville américaine, une petite ville où il ne se passe rien, qui s'appelle Merci. C'est le printemps. Donc, l'enquête est confiée à Lorraine, la shérif locale. L'enquête se déroule et puis arrive l'été. Et là, les regards convergent vers le professeur de français du lycée. Et en fait, chaque saison donne la parole à un personnage clé d'histoire. Son parcours, ses rapports avec Léo, ses amours, ses travers ou ses faiblesses. Et c'est là que Marie Vintras, elle réussit à nous embarquer. Quelle que soit la saison ou le personnage. Et ça, c'est pas évident, parce que quand on change de personnage, des fois, on s'attache à un et pas aux autres. Ben là, non. Son ton change pour chacun, il colle parfaitement à chacun, et on navigue à vue, on est porté, on se fait des idées, ou pas, parce qu'elle a l'art de distiller les parts d'ombre de chacun au fil des saisons. Elle va également laisser infuser des révélations discrètes, et tout ça, ça nous tient en haleine. En fait, on est... Son roman, il est prenant, surprenant, et c'est passionnant.
D'après ce que moi j'entends, j'ai l'impression que vous me parlez d'un polar. Est-ce que c'est un polar ou est-ce que c'est bien plus qu'un polar ?
C'est bien plus qu'un polar. Il y a une intrigue, mais comme elle le dit elle-même, elle ne construit pas son livre par rapport à l'intrigue. Pour elle, elle ne crée pas de suspense. Mais c'est le lecteur qui se met dans cette position. C'est moins un ascenseur émotionnel que Blizzard, son premier roman qui était formidable, qui a rencontré un énorme succès en librairie, notamment avec le prix des libraires. C'est plus profond que ça. Donc en effet, c'est pas un polar, c'est un peu comme la librairie. Ce livre, il est inclassable. Il y a certains livres dans la librairie que je mets côté ce qu'on appelle littérature blanche et côté ce que vous avez dit tout à l'heure, littérature de mauvais genre. Ce sont des livres qui sont inclassables, mais c'est ce qui fait leur force et leur beauté, je trouve.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de plus sur Marie Vintras ?
Alors Marie Vintras, c'est un pseudo. Oui. Elle est née à Rennes et elle est avocate à Paris. Donc son deuxième livre, comme elle le dit aussi, elle le dit beaucoup mieux que moi, elle a beaucoup peiné à l'écrire. Elle l'avait déjà très entamé avant la sortie de Blizzard et Blizzard a eu un gros succès en deux temps. Un premier succès, on va dire un peu plus confidentiel, et quand ce livre a eu le prix des libraires, il y a eu une deuxième vague. Donc ça l'a tenu pendant deux ans. Ça a été très déstabilisant, comme beaucoup de primo-romanciers le disent. Et elle a mis de côté son livre, elle savait plus trop quoi faire, si elle devait l'écrire ou pas l'écrire. Puis elle s'est dit finalement, je me lance, on l'aime ou l'aimera pas, mais c'est mon bébé, c'est mon enfant, c'est mon deuxième. Ben voilà, on verra. Donc elle a une sensibilité, on la sent attachée à ses personnages. C'est pour moi, c'est aussi un peu le nerf de la guerre de l'étincelle, de pousser des néo-romanciers. Peut-être étant néo-libraire, peut-être que ça me tient à cœur. Mais voilà, et c'est une, je trouve, une belle personne qui écrit de très beaux textes.
C'est un roman de la rentrée ?
C'est un roman de la rentrée littéraire, tout à fait.
On rappelle les références ?
Marie Vintras, Les âmes féroces, aux éditions de l'Olivier.
Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui s'annoncent à la librairie L'Étincelle ?
Oui, tout à fait. Il y a notamment la venue de Daniel Faure, qui est un auteur connu et reconnu, puisque c'est son sixième ou septième roman, pour Vie sauvage. Il avait écrit l'année dernière La vague qui vient, un roman surprise, vraiment un coup de cœur de L'Étincelle, qui a été porté par de nombreux libraires d'ailleurs pour son premier roman. Et là, je reçois Daniel Faure à la fois pour son parcours, parce que c'est un homme qui a eu plusieurs vies, enseignant, journaliste, directeur de la création, et pour son livre, bien sûr son dernier, Vie sauvage. C'est un ton, une patte, il a le sens de la formule, il écrit excessivement bien, c'est fin, c'est drôle. Il faut être embarqué dans son univers pour l'apprécier à sa juste mesure. Donc j'ai hâte de le recevoir.
Et ce sera quel jour ?
Ce sera le jeudi 19 septembre à 19h, à L'Étincelle, bien sûr.
Et donc son roman est paru aux éditions Inculte.
Oui, ça ne s'invente pas.
Eh bien, je vous remercie Sophie Vacher pour ce conseil. Vous pourrez retrouver les références sur la page de l'émission. Je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci Sophie Vacher. J'espère que cette petite chronique vous donnera l'envie de découvrir les coups de cœur totalement subjectifs proposés par mes invités. Mais entre les pages, c'est terminé. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 25 septembre à 17h. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.